Club Sandwich.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 avril 2026. Vous êtes sur Radio Campus Amiens et vous écoutez votre émission d'actualité locale et associative préférée, Info Club Sandwich, disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Pour le reportage du jour, Olivia, étudiante en médecine, qui a participé à un atelier pratique du journalisme avec la radio, a réalisé un reportage sur le monitorat d'anatomie. Et en deuxième partie d'émission, Margot nous propose une chronique sur l'anxiété et la créativité. Comme musique, on vous propose Cold, Cold, Cold du Cage the Elephant. Puis pour terminer l'émission, on écoutera Do You Want to Know a Secret des Beatles. Attention, ce reportage évoque des thématiques qui peuvent heurter la sensibilité des auditoristes.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans le bâtiment H du campus santé. Je suis avec Marie et Elouane qui sont moniteurs d'anatomie. Ils sont tous les deux en troisième année de médecine et ils vont nous présenter le monitorat d'anatomie. Marie et Elouane, bonjour.
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 Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce milieu, comment pourriez-vous décrire l'ambiance dans un laboratoire d'anatomie ?
L'ambiance peut être assez détendue entre nous dans l'équipe on va dire, mais il y a quand même beaucoup de sérieux et puis ouais, faut vraiment se concentrer sur les dissections et sur les présentations, donc beaucoup de respect entre nous, mais aussi envers les corps.
Oui, c'est ça, en fait, c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu compliqué pour les gens qui sont pas du milieu de se dire qu'on va fréquenter des morts toute la journée, mais c'est vrai que on a la chance d'être une petite équipe et on s'entend tous bien, donc l'ambiance reste quand même détendue, même si on garde un certain respect et un côté un peu solennel au niveau des corps.
En tant que moniteur d'anatomie, quel est votre rôle exact ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Nous, en tant que moniteur, on va d'abord s'occuper de préparer les dissections. Donc à chaque fois, c'est par thème. On va aller appareil par appareil, donc soit appareil locomoteur, appareil digestif, appareil cardiovasculaire, tout ça. Et ensuite, on va disséquer concrètement les corps. Donc, on va pendant une semaine s'occuper de la dissection, donc préparer les corps pour qu'ils soient présentables aussi pour les étudiants, parce que justement, la semaine qui suit, on fait une présentation auprès des deuxième et troisième années de médecine de la dissection qu'on a faite. Donc après, il y a aussi toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut montrer exactement, qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence par rapport à l'appareil choisi, et voilà.
À quel moment de vos études vous avez décidé de devenir moniteur d'anatomie et pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que vous avez été inspiré par les moniteurs précédents ou c'est un choix qui était nouveau pour vous ?
Personnellement, ça m'a toujours intéressé l'anatomie, mais je pense que j'ai vraiment eu envie de rejoindre le monitorat en deuxième année, quand justement j'ai assisté aux prosections. Et ça m'a vraiment impressionné les connaissances qu'ils avaient. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de faire partie de cette aventure et puis aussi d'apprendre plus de mon côté. Puis avoir aussi cette dimension apprentissage aux autres étudiants. Je trouve ça hyper important. En fait, pour moi, c'est vraiment la suite de son apprentissage à soi, d'apprendre aux autres.
Oui, je rejoins complètement Elouane sur ce point. Moi, pareil, c'est en deuxième année que j'ai découvert le monitorat, parce qu'avant, je ne savais pas du tout que ça existait. Et c'est aux premières présentations auxquelles j'ai assisté, où je me suis dit, ouais, c'est incroyable, c'est impressionnant. Aussi, effectivement, le nombre de connaissances qu'ils avaient, alors qu'en fait, c'était des étudiants qui n'avaient qu'un an de plus que moi. Et je voulais vraiment leur ressembler, d'avoir toutes ces connaissances et cet apprentissage direct du corps, parce que c'est pas du tout la même chose de travailler sur des livres d'anatomie et sur un vrai corps, de voir les choses en vrai. Et donc, ça m'a aussi inspirée à continuer là-dessus et à me présenter au monitorat.
Par rapport aux connaissances, est-ce que vous avez des cours en plus des autres ? Comment vous êtes accompagné par rapport à toutes ces connaissances que vous avez acquises au cours de cette année ?
On n'a pas de cours en plus. Les connaissances qu'on va avoir, ça va être justement des recherches de notre côté. Donc voilà, c'est un travail continu tout au long de l'année de se former un peu encore un peu plus à l'anatomie.
Oui, c'est ça. Ça va être vraiment du travail personnel où on va aller être quasiment en autonomie complète, ou alors on va travailler ensemble et faire vraiment un partage de connaissances, que ce soit entre nous, nouveaux entre guillemets de la même année, ou même avec les anciens moniteurs où ils vont nous partager leurs connaissances, parce que comme ils sont plus vieux et qu'ils sont aussi passés par là, ils ont acquis de nouvelles connaissances et ils nous partagent aussi leur expérience parce que eux sont aussi passés par les dissections. Et à chaque fois, quand on dissèque, quand on ne sait pas trop vers où on va, bah, on apprend en faisant des erreurs et donc on peut transmettre aux suivants comment il faut faire et ne pas faire.
Selon vous, quelle est la partie de l'anatomie humaine qui est le plus complexe à expliquer ou à montrer aux élèves ?
J'hésite entre la neuroanatomie et l'anatomie de tête et cou. Les deux sont très complexes et ont énormément de détails. C'est vraiment deux anatomies totalement différentes, mais tout aussi passionnantes l'une comme l'autre.
Oui, je suis carrément d'accord, parce que pour le coup, en fait, contrairement aux autres appareils, ce sont des zones qui sont assez minutieuses et où on ne voit pas forcément tout. C'est vrai que la neuroanatomie, même si on dissèque le cerveau, ça va être compliqué d'aller beaucoup plus dans le détail et de vraiment tout voir, contrairement à, par exemple, quand on va disséquer un muscle ou quand on va disséquer les reins ou un cœur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus microscopique. Et même au niveau tête et cou, les structures sont beaucoup plus fines, beaucoup plus sensibles et fragiles. Et donc, c'est un travail beaucoup plus minutieux et complexe pour vraiment rendre quelque chose de fidèle à ce qu'on veut présenter.
Alors là, Éloane, tu nous as sorti des outils sur la table. Est-ce que tu peux nous les décrire ? Quelle est la boîte à outils d'un moniteur d'anatomie ?
La boîte à outils d'un moniteur, elle va être assez simple. On va avoir des pinces, déjà, donc des pinces plates, ou alors des pinces avec des petites griffes qu'on va notamment utiliser au tout début lorsqu'on incise la peau pour pouvoir bien la tenir. On va avoir les porte-aiguilles, donc ça va vraiment être utile au moment de des sutures notamment. Donc en gros, on peut voir ça un peu comme des ciseaux, mais qui ne coupent pas et qui ont un petit quadrillage au bout pour bien tenir l'aiguille. L'instrument le plus iconique, je pense, le scalpel. Voilà. Donc pareil, pour inciser la peau, on ne dissèque pas avec un scalpel, parce qu'on risque d'abîmer les structures, ça coupe énormément. Après, on va avoir des ciseaux, donc des ciseaux plutôt à bout rond, comme ça. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. Donc en gros, on va venir les insérer dans une structure et les ouvrir pour vraiment disséquer. En général, on ne coupe pas avec les ciseaux, sauf si on est vraiment certain de ne rien abîmer. Et on va avoir des ciseaux qui sont un peu plus petits, qu'on appelle les Joseph, qui eux sont à bout pointu. Voilà, donc ceux-là, on évite un petit peu de les utiliser parce que y a toujours ce risque d'abîmer les structures. Mais en soi, dans certaines situations, on peut les utiliser. On va avoir des clans, donc ceux-là on va vraiment les utiliser pour tenir des structures en général. Là on va venir pincer la peau et puis la replier pour éviter qu'elle nous gêne. On va aussi avoir des instruments de microchirurgie, donc en fait c'est exactement les mêmes que ceux d'avant mais en tout petit pour les structures vraiment très fines, donc notamment tête et cou et la neuroanatomie. Voilà, des mini pinces et des mini ciseaux. Et puis pour suturer évidemment du fil de suture. Voilà. C'est vraiment les principaux outils qu'on trouve dans notre boîte quand on dissèque.
Là, tu nous as parlé de suture, donc ça fait partie des règles que vous avez de devoir refermer les corps après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règles ? Pourquoi vous faites ça ? Tout ce qu'il y a à suivre comme protocole ?
Oui, alors c'est vrai que les corps, au niveau des règles à suivre, c'est déjà, si on décide de travailler sur une structure, normalement on doit vraiment se concentrer sur cette structure, on ne doit pas aller ouvrir ailleurs. En général, quand on prépare un corps, c'est pour une zone et on ne va pas se disperser n'importe où parce qu'il y a aussi des règles à respecter de demandes spécifiques, tout ça. On a pas mal d'administratifs et de demandes à faire spécifiques. Et puis ensuite, on doit tenir à jour un cahier de présence où on doit mettre quand est-ce qu'on est présent et ce qu'on fait exactement, sur quel corps on travaille précisément, pour aussi éviter tout souci si, une fois qu'on a terminé de travailler sur les corps et qu'ils sont envoyés à l'incinération, si on voit qu'il y a un problème dessus, au moins il y a un historique de qui a travaillé dessus, quand, qu'est-ce qui a été fait normalement dessus, pour voir un peu ça. Et effectivement, dès qu'on a fini de travailler sur les corps, on les suture. Déjà, par respect tout simplement du corps, on l'a ouvert, on l'a disséqué, on a travaillé sur les structures. Parfois, les corps sont restés ouverts pendant 2 semaines. Donc, c'est aussi par respect pour la personne qui a fait don de son corps de le refermer correctement. Et aussi, effectivement, ça nous permet de nous entraîner à faire des sutures parce que c'est pas forcément ce que tous les étudiants de 3e année ont l'occasion de faire, du moins sur des vrais corps.
Est-ce que vous avez l'accès à l'historique médical des personnes que vous avez ? Est-ce que vous savez un petit peu la raison de leur décès, etc. ?
on n'a aucune info du coup sur les personnes, que ce soit leur âge, leur date de décès ou même ce qui leur est arrivé. En revanche, d'un point de vue purement anatomique, on peut remarquer certaines choses. Ça va être des cicatrices, donc qui peuvent être des traces d'opérations ou de poses d'implants, de pacemaker, tout ça. On peut aussi voir des anciens dispositifs comme les PAC. Je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est pour les traitements longue durée. On met une petite chambre sous la peau pour éviter d'abîmer les veines et c'est plus confortable pour les patients. Ça va notamment être le cas dans les chimios. Donc on peut retracer un petit peu certaines maladies et imaginer ce qu'ils ont pu recevoir. Après, voilà. Sur le papier, on n'a absolument aucune information sur eux.
Oui, effectivement, la seule information qu'on a, c'est le sexe de la personne. Et après, effectivement, on peut déduire potentiellement ce qui est arrivé si on va avoir un patient qui a effectivement un PAC, donc potentiellement un traitement de chimio, et que, par exemple, on voit que ce patient a aussi une stomie. Donc, le fait de remettre un bout de l'intestin à l'extérieur et ne plus utiliser le conduit naturel pour les selles, on peut tout à fait imaginer que potentiellement, ces personnes avaient un cancer du côlon ou quelque chose comme ça, ou si on a une patiente qui a eu une mastectomie et aussi un PAC, bon bah potentiellement peut-être un cancer du sein. Après, est-ce que la personne est décédée de ça précisément? On ne sait pas, mais on peut essayer de déduire des petites choses par rapport à ce qu'on observe.
Au-delà de l'aspect technique, pourquoi les protocoles selon vous sont importants? Est-ce que c'est une forme de sécurité ou plus un hommage au donateur?
Je dirais un peu des deux. D'une part, pour bien rester dans un cadre éthique, éviter tout débordement, évidemment, il faut être curieux en anatomie, mais on ne doit pas sortir de ces règles sous prétexte d'être curieux. Voilà, faut vraiment garder un certain respect des corps et des donneurs. On n'oublie pas que ce sont des êtres humains qui, certes, sont décédés, mais des êtres humains quand même.
Oui, c'est ça, c'est des gens qui avaient une famille, qui avaient des proches, donc on doit garder un certain respect du corps et donc suivre les règles, effectivement pour des questions de sécurité aussi pour nous. Donc comme toujours avoir des gants et puis avoir une casaque, tout ça, de la protection pour nous, même si les corps, quand ils arrivent au labo, ils sont testés pour différentes maladies, que ce soit par exemple le VIH ou les différentes hépatites, pour aussi nous protéger nous, parce qu'effectivement il peut rester du sang dans les corps même s'ils sont injectés. Donc déjà, par question de sécurité, on garde quand même toujours des gants, on touche jamais un corps à main nue directement, et puis après aussi par respect effectivement pour la personne.
Je reviens dessus au niveau équipement du coup. Effectivement, on a toujours une paire de gants, voire deux, en sécurité, et on a aussi une tenue de bloc et une casaque par-dessus. Impossible qu'on disséque avec nos vêtements ou quoi, pour éviter. C'est très rare, mais il peut y avoir des projections.
Et c'est aussi pour éviter le transfert d'odeur, parce que si vous disséquez toute la journée avec vos vêtements de ville, vous rentrez chez vous et vous avez encore l'odeur, et c'est assez compliqué à faire partir, même avec plusieurs lavages.
Là, vous parlez de l'odeur. La première fois que vous êtes rentré dans une salle de dissection, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous a un petit peu angoissé, l'odeur, la vue des corps ou...
Alors, moi, je me souviens de ma première prosection l'année dernière. Effectivement, un petit peu d'appréhension, notamment parce que c'est la première fois que j'allais voir un corps disséqué. Et puis même au niveau de l'odeur, on m'avait dit qu'on pouvait sentir un petit quelque chose. Mais très rapidement, on s'habitue et en fait, on se focus vraiment sur la région anatomique qui est présentée. Et du coup, on oublie un petit peu le cadre pour vraiment se concentrer pleinement dessus. Et pour les dissections, à peu près pareil, un petit peu d'appréhension, par peur de mal faire, mais très rapidement, on se concentre et ça devient le travail.
Oui, c'est ça, pour le coup, on a pu avoir une prise d'habitude en y allant crescendo, parce que quand on vient en tant que deuxième année assister aux présentations, en général, enfin en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que les corps soient complètement couverts, à part la partie qu'on observe. Donc on couvre la tête, on couvre les pieds si c'est pas ça qu'on observe, enfin vraiment on couvre toute la zone qu'on n'observe pas avec des champs, pour aussi déjà par respect pour la personne, comme pour un patient, quand on va ausculter un patient, on va pas le mettre complètement nu, on va cacher les parties qu'on n'est pas en train d'ausculter, et aussi pour les étudiants, pour que ce soit un peu plus facile entre guillemets comme première vue. Et puis en fait, comme il y a vraiment, je crois qu'on a 7 présentations en tout dans l'année, donc en fait on a eu 7 fois l'occasion d'être au contact de corps déjà couverts. on a fini par s'habituer à ça. Et ensuite, quand on passe à l'étape d'après, où les corps sont découverts parce que c'est nous qui les disséquons, bon, voilà, l'étape s'est faite, ça s'est fait doucement, progressivement. Et c'est pas brutal d'un coup, on a un corps entier ouvert devant nous, quoi.
Aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup sur l'anatomie par rapport aux tablettes, les 3D, les réalités virtuelles, etc. Selon vous, qu'est-ce que vous apprenez en plus sur des vrais corps que les simulations ne peuvent pas montrer ?
L'élément principal, c'est que sur une simulation, on va avoir la généralité, du moins ce qu'on nous apprend en cours. Donc ça va être, voilà, de manière générale, c'est ça, c'est comme ça. En moyenne, c'est ça, il y a tant d'artères, l'artère, elle passe comme ci ou comme ça. Alors que sur un vrai corps, on va avoir toutes les variations anatomiques propres à cette personne-là. Donc on peut avoir dans un cours, on nous avait dit que cette veine-là, elle se présentait comme ça. Et en fait, finalement, sur le corps qu'on a, elle se présente d'une toute autre manière. Donc c'est aussi très important parce que les patients qu'on traitera auront tous leurs spécificités et ne colleront pas forcément parfaitement à ce qu'on a pu apprendre dans les bouquins ou sur de la 3D, parce que pareil, la 3D ne peut pas être aussi diverse que les différents corps qu'on peut avoir.
Ouais, tout à fait. Et je trouve ça vachement important de ne pas séparer les deux en disant que l'un est meilleur que l'autre. C'est vraiment deux approches qui sont complémentaires. C'est important de savoir la généralité, mais c'est aussi important, du coup, de voir comment ça se passe sur un vrai corps. C'est pour ceux qui veulent faire de la chirurgie ou même dans notre cursus tout court, on va forcément passer par un bloc opératoire et la présentation anatomique sur un humain est totalement différente que sur une tablette ou sur un ordi. Voilà, donc c'est important de repérer les structures, de savoir vraiment les repérer dans la vraie vie et pas juste avec plein de couleurs sur un schéma.
Oui, c'est ça. Et puis pour des choses toutes bêtes, par exemple, moi, c'est une des premières choses qui m'a frappée, c'est voilà, dans les cours, on va nous expliquer une artère, le principe, c'est qu'elle soit en capacité de soutenir de la pression. Parce que voilà, c'est le réseau qui est sous pression. Donc elle doit être résistante, musclée et bien se maintenir. Contrario, les veines, où elles doivent être capacitatives, où elles vont devoir engranger un certain volume et donc plus être élastiques que vraiment rigides comme une artère. Et donc ça, en théorie, c'est ça. En image, on va voir plus ou moins ça. Mais en réalité, sur un corps, on va se rendre compte qu'effectivement, quand j'appuie sur l'artère, ça fait comme un tuyau un petit peu, flexible mais quand même assez rigide, et une veine par contre elle va tout de suite s'écraser. Et donc se rendre compte de la réalité en mettant en pratique ce qu'on a appris en théorie, c'est aussi très complémentaire l'un de l'autre.
Est-ce que de faire partie du monitorat d'anatomie, ça a changé votre vision de la vie, de la mort ou de votre futur métier en tant que soignant? Là vous avez parlé de la chirurgie aussi, est-ce que c'est ce que vous voulez faire plus tard?
Alors oui, la chirurgie m'intéresse énormément. Après, je reste pas fermé sur les autres spécialités. J'attends de voir un peu, d'en découvrir plus. Oui, d'une certaine manière, ça a un petit peu changé ma façon de voir les choses, de sorte que voilà, on peut avoir des patients qui sont vivants, mais là, techniquement, c'est comme si on opérait des patients qui sont décédés. Et ça m'a aussi fait réfléchir à, est-ce que plus tard, j'aimerais, pourquoi pas, donner mon corps à la science aussi. Voilà, c'est une manière, je trouve encore une fois, d'aider la recherche et l'apprentissage des étudiants. Donc je trouve ça quand même vachement beau pour un futur médecin de continuer d'apprendre des choses aux gens, même après son décès.
Oui, effectivement, je suis carrément d'accord là-dessus. Moi, pour le coup, je me porterai plus vers de la médecine légale, donc plus côté médecin légiste. Donc effectivement, c'est plutôt propre à ce que je ferai d'avoir des corps décédés. Et effectivement, ça a un petit peu changé ma vision des choses sur la vie et la mort. J'étais déjà plus ou moins à l'aise avec le sujet, mais c'est vrai que fréquenter au quotidien des corps inertes, ça change un petit peu la vision des choses et on devient plus à l'aise, je dirais, avec le sujet de la mort, parce que c'est vrai que, en tout cas notamment en France, on a une culture qui fait que la mort c'est un peu tabou, on n'en parle pas trop, on cache, et de la fréquenter au quotidien, ça permet d'être plus à l'aise avec le sujet et de toujours garder de l'empathie évidemment, mais d'être plus à l'aise et de le vivre moins difficilement, on va dire.
Si vous devriez définir le monitorat d'anatomie en un seul mot, lequel choisiriez-vous ?
C'est vrai que quand on est baigné là-dedans dans le quotidien, il y a aussi un peu ce mécanisme entre guillemets de défense où on va avoir un certain humour entre nous un peu sombre et qui n'est pas forcément adapté à tout le monde, mais qui fait qu'on peut travailler plus sereinement et être moins impacté par le fait de prendre un petit peu de distance, on va dire, tout en gardant du respect. Évidemment, c'est toujours un équilibre entre garder du respect pour la personne, mais aussi essayer de détendre l'atmosphère pour qu'on puisse travailler sereinement là-dessus. Donc c'est pas forcément évident de trouver quelque chose qui résume le monitorat en simplement une phrase ou un mot.
Moi je pense que je dirais que c'est une très belle expérience, autant au niveau apprentissage que humainement parlant, on va dire. On découvre de nouvelles personnes qui ont des connaissances à nous apporter, on leur apporte aussi beaucoup, on s'aide mutuellement. Et voilà, on découvre aussi du coup ce que c'est que de travailler avec la mort, entre guillemets. Très chouette à vivre, je trouve.
Oui, c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante d'apprendre énormément, même aussi au-delà du monitorat même. Le laboratoire permet aussi à des chirurgiens ou des internes de venir s'entraîner. Il y a des TP aussi qui ont lieu pour s'entraîner sur des corps avant de le faire sur des gens vivants. Je pense que les patients seront contents de savoir qu'on s'entraîne d'abord. Et donc c'est vrai qu'il y a un partage de connaissances énorme qui se fait non seulement entre nous étudiants en troisième année ou quatrième pour les anciens du monitorat, mais aussi avec des chirurgiens ou des internes qui passent par là et qui nous partagent un peu leurs connaissances. Donc ouais, c'est très enrichissant, on apprend beaucoup tous ensemble.
Ouais, je tiens aussi à rajouter du coup que non seulement il y a un échange de connaissances entre nous troisième année, mais comme les anciens moniteurs passent encore au laboratoire, on peut bénéficier de leur expérience et de leur savoir quand on les croise. Donc c'est hyper enrichissant à chaque fois qu'on les voit.
Ben merci beaucoup Marie et Louane de nous avoir accueillis ici dans votre bâtiment et d'avoir répondu à toutes nos questions. On a beaucoup appris sur le monitorat d'anatomie qui est quelque chose d'inconnu pour beaucoup, je pense, surtout des étudiants qui ne sont pas dans la santé. Merci encore.
Et ben c'était avec plaisir. Merci à vous d'être venus.
Oui, merci à vous d'avoir fait découvrir le monitorat. J'espère que ça fera comprendre aux gens déjà la différence entre le don de corps et le don d'organes, parce que ce sont deux choses très différentes, et de leur montrer qu'on n'est pas des gens un peu bizarres qui font des choses étranges.
Problems in my
Vous venez d'écouter Cold, Cold, Cold de Cage the Elephant, toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. Maintenant, Margot, on t'écoute pour ta chronique.
Oui, alors aujourd'hui, donc, j'ai proposé une chronique sur l'anxiété comparée avec la créativité. Alors, il existe de nombreuses études sur l'anxiété, peut-être que vous le savez. Elle peut prendre différentes formes et concerne, selon des chiffres de 2021, 12,5% des Français et Françaises âgés de 18 à 85 ans. On peut souligner que cela concerne d'ailleurs 18% des femmes contre seulement 6% des hommes. Alors je me suis demandé quel impact ça pouvait avoir sur la créativité. Serait-ce une souffrance comme un moteur ou au contraire un frein à l'imagination et donc à la production artistique? Beaucoup pensent que les artistes atteints de différents troubles ou maladies psychiques sont justement animés par leur souffrance, ceux qu'on appellerait les artistes torturés. Pourtant, ce n'est pas ce qui permet à un artiste d'être doué, qu'il soit peintre, musicien, écrivain ou autre. D'ailleurs, si je m'interroge, c'est parce que j'ai plutôt l'impression que, au contraire, l'anxiété, notamment, engendrait une peur de l'échec, du ridicule et de la déception. Il ne faut donc, je pense, pas confondre ce qui peut être source d'inspiration et ce qui est moteur à la création. L'anxiété est d'abord un obstacle. Elle détourne l'attention nécessaire à la créativité vers des peurs, des angoisses et des inquiétudes diverses. Pour mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau d'une personne anxieuse, il faut comprendre qu'il est en hypervigilance presque constante et plus ou moins intense. Le danger peut être immédiat, lointain, réel ou imaginaire, et place la personne atteinte de cette anxiété dans un état de peur, de stress et d'angoisse, provoquant des sentiments d'essoufflement, d'étouffement, parfois allant jusqu'à la crise de panique et qui peut même donner l'impression de danger de mort imminente. Pas cool et surtout réellement difficile à vivre quotidiennement. Si certains ont conscience de leurs conditions et apprennent à vivre avec, ce sentiment de poids sur la poitrine reste souvent très présent. En faisant mes recherches, j'ai donc trouvé un article intitulé « L'anxiété stimule-t-elle vraiment la créativité ?» publié fin 2023 par Arash Javanbak, professeur en psychiatrie de l'université de Wayne State aux États-Unis. Vous pourrez le retrouver sur le site The Conversation et il y explique tout. D'abord, en cas d'anxiété, notamment animée par la peur, il est souvent préférable de se rapprocher de ce qui nous rassure, de ce que l'on connaît. Or, la créativité naît rarement de ce qui nous est familier, mais plutôt est stimulée par la découverte de l'inconnu. Il parle également de la peur d'être rejeté, violemment jugé et critiqué lorsque l'on propose quelque chose de différent et nouveau, comme c'est souvent le cas, si ce n'est systématiquement arrivé dans l'histoire, une fois encore, quel que soit le type d'art. Un certain niveau d'anxiété peut être utile, certes, permettant de dépasser ses limites. Peut-être donc que dans ce cas-là, la peur de ne jamais au moins essayer et de ne jamais avoir une chance d'y arriver ou de rater une deadline, une date limite par exemple. Plus surprenant, le spectre de la mort prend une place très importante dans la créativité, car la peur de mourir provoquerait chez nous une motivation à créer, écrire des histoires pour atteindre une forme d'immortalité. En tout cas, la peur de l'échec, la peur de ne laisser aucune trace sur son passage, sont ironiquement un frein à la création. Je pourrais vous lire simplement l'article qui a répondu à toutes mes questions, mais ce serait vraiment long, alors je vous conseille plutôt de le lire vous-même. En tout cas, n'ayez crainte, prenez le temps avant tout d'identifier la source de votre anxiété, si c'est la peur de l'échec, votre jugement personnel ou un autre défi quotidien qui attire votre attention plus que le reste peut-être. Puis il vous faudra travailler avant tout sur cette angoisse, vous souvenir que l'échec est une possibilité et que tout le monde échoue et vous pourrez toujours réessayer peu importe le temps que cela prendra. Mais oui, c'est normal d'avoir peur et c'est difficile de passer au-dessus, mais beaucoup l'ont fait avant nous et malgré la souffrance et l'angoisse, ils ont réussi à passer au-dessus. Alors oui, c'est possible et non, ça ne va pas nous tuer, même si on en a l'impression, et ce n'est pas de notre faute. L'anxiété procure réellement ce genre de sensation. Mais on est ensemble, ça va le faire, il existe des solutions et de nombreuses études et articles permettent aujourd'hui de s'y retrouver un peu mieux, en espérant que cette chronique vous permettra de vous sentir moins seul face à vos peurs et vos angoisses.
Merci Margot. Voilà, notre émission Info Club Sandwich touche à sa fin. Merci pour votre attention. On se quitte avec la chanson Do You Want to Know a Secret des Beatles. À demain.
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear.